Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav
Shimon Gober.
Bonne écoute et bon limoud.
Bonjour à toutes et à tous, Bezrat Hashem, Beshem Hashem, Naseh Venatzliach. Alors, je voudrais avec vous partager aujourd'hui une Gemara qui est absolument incroyable. Parce qu'en fait, au premier abord, on ne comprend pas ce qu'elle veut la Gemara. Mais en fait, il se cache dans cette Gemara la clé pour une bonne année. Donc on va se faire plaisir, d'accord? On va la lire ensemble, on va l'analyser, Bezrat Hashem, on va découvrir de véritables merveilles. Alors vous savez, la Gemara est comme ça, c'est une Gemara dans Rosh Hashanah. Elle nous ramène une Braïta, un enseignement au nom de Rabbi Akiva. Donc Tania Amar Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda dit l'enseigner au nom de Rabbi Akiva. Miprima Amra Torah Evio Omer Bepesach. Pourquoi la Torah nous a demandé de ramener l'offrande d'orge, d'accord, le Omer, à Pesach? On ramenait une offrande d'orge à Pesach au Beth Amikdash, d'accord? Alors, pourquoi Hachem nous a demandé ça? Mipnei chez Pesach Zman Tvuahu. Parce que Pesach, c'est la période où maintenant commence à mûrir le blé, les céréales dans les champs. Et donc, du coup, Akadosh Baruch Hu nous dit, Amar Akadosh Baruch Hu, Evio Lefana et Omer Be Pesach, Kedeshit Barer Lachem Tvuah chez Basadot. Ramenez-moi Dieu le Omer à Pesach, comme ça vous aurez la bracha dans les champs. Bracha dans les champs. Elle est belle. Magnifique. Mipnema Amra Torah et Viyushte Alechem Beatziret. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a demandé de ramener deux pains, d'accord, il y avait deux pains qui étaient faits à base de blé, à Shavuot, quand c'est la seule fois dans l'année où on ramenait du Hametz dans le Beth Amikdash. On ramenait les deux pains à Shavuot. Pourquoi on ramenait ces deux pains à Shavuot pour les réponses? Mipne Shatziret Zman Perot Ailanu. Parce que Shavuot, c'est le moment où, justement, les fruits commencent à mûrir sur les arbres. On a besoin d'avoir une belle récolte. Donc Amar Akadosh Baruch Hu Evio Lefana Ishte Alechem, ramenez devant moi les deux pains, Beatzeret au moment de Shavuot, Kedeshit Baruch Lachem Perot Ailan, pour que vous ayez la bracha dans les fruits de l'arbre. Vous allez me dire quel rapport? De te ramener deux pains, donc du coup t'as la bracha dans le... Alors en fait, la réponse elle est très simple, c'est que initialement, dans la création du monde, le blé était un arbre. Ça paraît incroyable. Mais comme ça nous dit la Gemara, c'est qu'avant la faute de Adam Harishon, les épis de blé faisaient la taille d'arbres. Et quand Mashiach viendra, ce sera la même chose, Bezrat Hashem, on aura mérite de le voir, Rabbi Aminu. Amen. Et d'ailleurs, c'est la Gemara dit qu'il y a une marloquette. Quel était le fruit que Adam Harishon a mangé, qui était le fruit de la faute? Donc il y a trois avis, d'accord? Le premier, c'est le blé. Le deuxième, c'est la figue. Et le troisième, c'est le vin. D'accord? Donc, ça paraît bizarre. Parce que quoi, on a appelé le blé un arbre? Réponse oui, parce qu'à l'époque, d'accord, de Adam Harishon avant la faute, le blé était considéré comme un arbre. C'est tellement, c'était des épis qui étaient immenses. Donc, ramenez-moi les pains pendant Shavuot pour que vous receviez la bracha dans vos champs. Umipnema amra Torah nisrum ma'im bechag. Pourquoi la Torah nous a demandé de ramener de l'eau, d'accord, des libations d'eau à Sukkot, qu'on versait sur un petit trou qu'il y avait là-bas dans l'hôtel au Beth Amikdash, on versait de l'eau chaque jour, c'était Simcha Beth Ashoiva. Donc pourquoi on doit faire ça à Sukkot? Amar Kadosh Baruch Hu nisru lefanai maim bechag. Versez devant moi de l'eau pendant la fête, kedei shitbarer shitbaru lachem gishmei shana, pour avoir la bracha dans les fruits, dans les pluies de cette année. Donc on comprend, d'accord? À chaque fois, il y a un rapport de « vous m'avez donné, alors je vous donne ». « Vous m'avez ramené le homer, alors je vous ramènerai la bracha dans les champs ». ».« Vous m'avez ramené les deux pains, alors je vous ramènerai la bracha dans les fruits ». ».« Vous m'avez ramené de l'eau, alors je vous donnerai de l'eau à travers les pluies ». D'accord? Donc c'est comme ça, c'est kiff-kiff. C'est-à-dire, tu m'as donné, alors moi je te donne en retour. Très bien. Et là, la braïta, elle continue. Ve'imru lefanai. C'est ça qu'on va essayer d'analyser parce que ça paraît incompréhensible. Ve'imru lefanai berosh hashana malchuyot zichonot ve'shofarot. Dites devant moi, donc on parle du Moussaf de Rosh Hashanah, les versets qui mentionnent les malchuyot, la royauté d'Hachem, zichonot, les souvenirs qui sont positifs, ve'shofarot, c'est qui mentionne la notion du shofar, malchuyot, kedeshitamni chuni alechem, malchuyot pour que je règne sur vous, zichonot pour que votre souvenir monte en bien devant moi, lifnei les tova, ou bamé, bashofar. Et comment vous allez faire ça à Rosh Hashanah? Avec le shofar. Ok. Bon, jusqu'à là, tu dis ok, d'accord, très bien. Donc, on a parlé de Pessah, Shavuot, Sukkot et Rosh Hashanah à la fin. Mais maintenant, il y a un problème. Quel est le problème? C'est que, comme on a expliqué au début de l'enseignement de Rabbi Akiva, il y a un parallèle. Tu me ramènes le homer, t'auras la bracha dans les champs. Tu me ramènes le lit de pain, t'auras la bracha dans les fruits. Tu me ramènes de l'eau à Sukkot, t'auras la bracha dans les pluies. Bon, tu comprends, il y a un parallèle. Maintenant, sonne devant moi le shofar à Rosh Hashanah, et quoi? Alors il est où le retour? Il n'y en a pas. Akadosh Baruch Hu, il te dit, vous savez comment vous allez faire malchut zichron de shofarot? Avec le shofar. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est une annonce. Que vous le sachiez, il faut sonner le shofar à Rosh Hashanah. Ok, très bien. Mais a priori, le donnant, il est où? C'est-à-dire, il n'y a pas de retour a priori à Rosh Hashanah. Ça paraît étrange. Donc, Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre ça. Et on va découvrir, Pachoud, comment avoir la bracha pour l'année. Pourquoi c'est important? Parce que je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas ce que c'est que la bracha. Pour eux, la bracha, c'est des pépettes. C'est de l'argent. Quand il y a de l'argent, il y a de la bracha. Oh, t'as vu quelle bracha il a? Mais c'est faux. Parce qu'il y a énormément de gens qui ont de l'argent. Mais il y a la drogue qui va avec. Il y a énormément de gens qui ont de l'argent, mais ça entraîne le divorce. Il y a énormément de gens qui ont de l'argent, mais ça les amène dans la dépression. Il y a énormément de gens qui ont de l'argent et leurs fils, leurs enfants ne savent pas gérer cet argent-là et se droguent. Il y a plein de défauts qui peuvent être en conséquence de l'argent. Donc, il n'y a pas de bracha dans ce cas-là, dans l'argent. L'argent n'est pas une bracha, au contraire. C'est ça qui a ramené le malheur dans la maison. Donc, faut changer cette idée-là, que la bracha, ça veut dire forcément l'argent. C'est sûr que Baruch Hashem, quelqu'un qui a de l'argent, il est heureux parce que s'il n'y a pas d'argent, il ne pourra pas être épanoui, il pourra im en kemar en Torah. S'il n'y a pas de farine, il n'y aura pas de Torah. Mais c'est vraiment, c'est vrai. Mais on va essayer de comprendre la vraie définition de la bracha Bezrat Hashem pour l'attirer sur nous pour Rosh Hashanah et la Gemara et cet enseignement de Rabbi Akiva nous donne la clé de comment il faut faire. Un cadeau phénoménal. Alors le Messiat Yesharim nous dit comme ça, écoutez bien. Le Messiat Yesharim nous dit, pourquoi lorsque tu ramènes le Homer, alors tu reçois la bracha dans les champs? C'est quoi la logique? Alors le Messiat Yesharim nous explique qu'en fait c'est très simple. Parce qu'en fait, puisque tu as amené cette espèce-là qui existait dans les champs, tu l'as ramenée, tu l'as élevée vers Hachem, tu l'as ramenée en proximité avec Hachem, donc la conséquence de la proximité avec Hachem, c'est la bracha. Tu l'as approchée d'Hachem, Hachem par conséquent s'est rapproché de cette chose-là et étend sa bracha sur le reste. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Pareil, tu as ramené les deux pains Shavuot dans le Beit HaMikdash, donc par conséquent, tu as offert à Hachem un petit peu de ce que tu as récolté. Par conséquent, Akadosh Baruch Hu te dit « Ah, tu m'as donné, alors je te donnerai Bezrat Hashem. » Et pareil pour la pluie, parce que tu m'as ramené de l'eau sur le Misbéach, donc tu as rapproché l'eau. Là, tu as une proximité, d'ailleurs, il y a un Midrash absolument extraordinaire. Le Midrash nous dit que lorsque les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, lors du deuxième jour de la création, ont été séparées, d'accord, les eaux du ciel et les eaux de la mer, les eaux de la mer se sont plaintes à Hashem. Elles ont dit, mais pourquoi? Pourquoi nous on a été séparés de toi, Hashem? Pourquoi on est tellement loin de toi? Pourquoi on n'a pas été fixés dans le ciel? Akadosh Baruch Hu leur dit, vous inquiétez pas. Viendra le jour où il y aura un Beit HaMikdash, il y aura ma maison sur terre, et vous serez ramenés à travers la libation de Sukkot, et à travers le sel qui était mis sur le Misbéach, qui était le sel de la mer. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On voit que, à travers cette proximité qu'on a au Beit HaMikdash, sur ces éléments-là, par conséquent, ces éléments sont bénis. Donc on comprend, d'accord? Tu viens vers moi, alors je viens vers toi, très bien. Mais le Rav Yerucham de Mir, il nous dévoile un secret phénoménal de cette Gemara. Il nous dévoile une chose, un principe qui s'appelle le Sod Haribouy. Et ça, on ne peut pas vivre sans comprendre ce principe. Sod Haribouy, nous dit le Rav Yerucham. C'est quoi Sod Haribouy? C'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous montre, ramène un petit peu de récolte, ramène le homer. Et si toi, tu as ramené ce homer-là, alors Bezrat Hashem, en conséquence, tu auras la bracha dans ton champ. Tu sais pourquoi? Parce que tu as montré que ça a justifié toute cette récolte, elle a été justifiée. Pourquoi? Parce que tu me l'as ramené sur le Misbéach. Donc maintenant que tu m'as justifié la raison pour laquelle maintenant tu as fait tout ça, tout ce travail-là, toutes ces récoltes-là, donc par conséquent, je te donnerai la bracha. Pourquoi? Parce que ça valait la peine que tous ces champs dans le monde, écoutez bien, c'est phénoménal, tous ces champs dans le monde ont existé, ça valait la peine, pourquoi? Pour ce homer. C'est ça le principe du Sod Haribouy. Le Sod Haribouy, c'est puisque maintenant, toi, tu m'as donné un peu. Donc, tu sais quoi? Ça vaut la peine qu'il y ait tout ça, rien que pour ce homer. Ça vaut la peine qu'il y ait tous les fruits sur terre, rien que pour ces deux pains que tu m'as ramenés. Ça vaut la peine qu'il y ait plein de pluie dans le monde, rien que pour cette eau que tu m'as ramenée. Parce que cette proximité que tu as créée avec moi à travers cette offrande-là, eh ben, ça valait la peine qu'il y ait tout dans le monde. Donc, Akadosh Baruch Hu, écoutez bien. Le Sod Haribouï, c'est le secret de l'abondance. Comme ça, il dit le Rav Yerucham. C'est-à-dire qu'à partir du moment où maintenant, toi, tu as justifié l'existence d'un élément, alors ça vaut la peine que tout cet élément existe. Pour bien vous faire comprendre, je vous donne un exemple. Noach, il était dans la Teva. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le bateau s'arrête. Et là, maintenant, il voit qu'il y a encore de l'eau partout. Hachem lui dit, envoie un oiseau, d'accord? Et Bezrat Hachem, tu vas regarder si maintenant... Non, il décide même d'envoyer un oiseau pour vérifier s'il y a quelque chose sur terre. Et qu'est-ce qui se passe? Il envoie le corbeau tourne, il part pas en mission. Il ne va pas chercher si maintenant il y a des plantes qui ont poussé, etc. Pourquoi? Parce qu'il est... Bon, bref, il a des mauvaises pensées sur Noach. Donc le corbeau ne veut pas partir. Noach ne veut pas le faire rentrer en retour. Il dit non! Pourquoi je vais faire rentrer cette race maudite de corbeau là? Je veux pas! Déjà, le corbeau, il a fauté dans la Teva. Il a été avec la femelle. Alors que c'était interdit. En plus de ça, c'est un animal qui est menteur. La Gemara nous ramène que c'est un animal qui ment, le corbeau. Donc Noach, il dit, mais pourquoi je vais ramener dans... Pourquoi le monde, il a besoin d'un animal maudit comme ça? Un animal tamé comme ça. Je dis, pourquoi? Je veux pas. Donc je veux pas le faire rentrer. Hachem lui dit, si, tu vas le faire rentrer. Tu sais pourquoi tu vas le faire rentrer? Parce que dans, écoutez bien, parce que dans plus de 1000 ans, il va y avoir un tzaddik dans le Ham Israël qui va s'appeler Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi va devoir fuir un roi qui était très rachat, qui s'appelait Achav. Il va devoir aller se planquer dans les grottes. Et quand il va se planquer dans la grotte, il aura pas de quoi manger, Eliyahu Hanavi. Qui c'est qui va lui ramener à manger? C'est un corbeau qui va faire l'aller-retour de la cuisine de Achav jusqu'à dans la grotte de Eliyahu Hanavi pour le nourrir. Donc, puisque dans plus de 1000 ans, il y aura un corbeau qui va faire des allers-retours, qui va faire, d'accord, Uber Eats. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça vaut la peine. Ça vaut la peine que maintenant tous les corbeaux existent, donc fais-le rentrer dans la Teva. Demandez Rav Yerucham, mais j'ai pas compris. Maintenant, tu t'arrives quoi? On va faire des milliers de corbeaux dans le monde. Pourquoi? Parce qu'un jour, pendant plus de 1000 ans, parce qu'un jour, le corbeau, il va faire Uber Eats. Ben, j'ai dit, ben, je comprends pas. Ben, je sais pas, moi, prends un autre oiseau, prends un truc. Pourquoi pas? Pourquoi? Non. Nous dit Rav Yerucham, de là, Kadosh Baruch Hu nous montre un grand principe qui est fondamental. C'est qu'à partir du moment où maintenant, cette espèce a justifié son existence, ça vaut la peine qu'il y en ait partout dans le monde. Ça vaut la peine. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui va faire sa mission. Comme il le faut. Et ça, vous savez, c'est incroyable, hein? Mais c'est un Rashi qui le dit, Parashat Bereshit. Rashi pose une question incroyable. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il voit en une paracha que l'homme, il suffit de parachat de Bereshit, de construction du monde, parachat noir, destruction du monde, d'accord? Donc, t'as vite compris ce que c'est que l'être humain. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu vois l'être humain qui est complètement, d'accord, le petit-fils d'Adam Harishon qui va faire de la Vodazara alors qu'il voit que son grand-père, il a même pas de papa. Je sais pas si vous avez un peu le délire. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu vois ça. Rachid dit, mais pourquoi Hachem il a créé le monde? Mais maître, pourquoi t'as tellement de Réchaïm qui vont aller au Guinam? Il y a de la place, comme disait mon Rosh Hashiva, il y a de la place pour tout le monde en enfer. Parce qu'il y a des gens qui disent, attends, moi je peux me détendre, de toute façon avec le nombre de personnes qui y vont, je sais pas s'il y aura de la place pour moi. Non, il y aura de la place pour tout le monde, d'accord? Le Nagmar dans Brachot, elle nous dit une des trois choses, un des trois éléments dans ce monde qui n'est jamais rassasié, c'est le Guinam, d'accord? C'est l'enfer. Donc maintenant, on demande Rachid, mais quoi? La plupart des êtres humains, ils vont finir en enfer. D'accord, c'est quelqu'un qui ne fait pas Torah mitzvot, ou quelqu'un qui ou les goyim qui ne respectent pas les sept lois de Noach. C'est tout, c'est l'adresse. Alors je comprends pas. Pourquoi avoir créé l'être humain? Il dit Rashi, non, ça valait la peine. Pour qui? Pour les tzadikim. Je sais pas si vous m'avez dit. Pourquoi? Parce que oui, il y a des justes. Il y a des gens qui veulent du bien. Il y a des gens qui veulent faire du bien. Et dans les goyim, il y a des justes parmi les nations. Donc ça vaut la peine. Qui est tellement de ratage pour les gens qui sont bien. Il dit le Rav Yerucham, ça s'appelle Sod Haribouï. C'est-à-dire que même s'il y a énormément de ratés, on regarde pas ça. Ça vaut la peine que la race humaine existe pour ces gens qui ont compris leur mission, qui ont compris leur rôle. Mais Moshe Rabbeinu va même en avoir peur. Moshe Rabbeinu, il va envoyer les Meraglim, il va envoyer les explorateurs en Eretz Israël. Maintenant, il leur dit, allez voir im yesh etz o ein. Allez regarder s'il y a un arbre en Eretz Israël ou pas. Parmi l'une des demandes d'exploration de Moshe Rabbeinu, il leur dit, dites-moi s'il y a un arbre. Bien évidemment, tous les commentateurs posent la question, comment se poser Moshe Rabbeinu, tu connais une terre ou un pays qui n'a pas un arbre. Donc, quelle est la question de Moshe Rabbeinu? Rashi sur place, il nous dit, la question est, allez voir s'il y a un juste, comparé à l'arbre, qu'on compare à l'arbre. On va pas en faire un chiffre là-dessus, mais il y a de quoi. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un juste parmi les peuples qui habitent en Eretz Kenaan, la terre qu'on va aller maintenant conquérir? Est-ce que maintenant, il y a un juste qui justifierait que maintenant tous ces peuples ont leur place en Eretz Kenaan? Parce que s'il y a ce juste, et il fait allusion à Iov, qui existe encore, qui vit encore, alors on ne pourra pas encore rentrer en Eretz Israël. Parce que son mérite à lui-même justifie que tout le monde continue à habiter en Eretz Israël. Parce qu'il y a lui. Parce qu'il y a lui. Et ils vont revenir, ils vont dire non, il y a pas, il est niftar, Iov n'est plus là, donc ils vont comprendre qu'il va pouvoir, rentrer. Mais on parle de quoi là? On parle d'un juste quand on sait que les Averot qui faisaient en Eretz Kenaan, les Goïm qui habitaient ici, c'était une catastrophe. Pareil, on voit la même notion avec Avraham Avinu. Avraham Avinu, Hachem lui dit, je vais raser la ville de Sodome. Donc maintenant, vous vous doutez bien que c'est pas tous les jours qu'Hachem décide de détruire une ville, une région. C'est-à-dire que c'est vraiment que c'est parti très loin. C'est-à-dire les gens de Sodome, c'était des gens qui étaient anti-bonté. C'était des rats d'infini. C'est-à-dire des gens qui laissaient mourir les pauvres devant eux, dans les rues, sans leur donner un pois chiche. Rien du tout. Ils ne donnaient rien, ils lâchaient rien. Et ceux qui donnaient aux pauvres, ils enquêtaient sur lui. Ils disent, attends, comment ça se fait que lui, ce pauvre-là, et ça fait une semaine qu'il est là, comment c'est possible? Alors, ça veut dire qu'on lui donne à manger. Et ils enquêtent, et ils condamnent à mort la personne qui l'a soutenu. Ça, c'était Sodome et Amoura. Avraham Avinu, il arrive, il fait une fila, il dit, Ribbono Olamim, Akadosh Baruch Hu, s'il y a 50 tzadikim, s'il y a 50 justes là-bas, à Sodome, est-ce que tu vas détruire la ville? Hachem lui dit, bon, ok, pour 50, non. Alors, s'il y a 40, tu vas détruire la ville? Hachem lui dit, non, s'il y a 40, non. Alors, s'il y a 30, tu vas détruire la ville? Hachem lui dit, non, s'il y a 30, non. 20, 10. Maintenant, après 10, il n'y a pas. Mais alors que c'est, attends, j'ai pas compris. On parle de gens qui sont des profonds impies, des réchaïm finis. Maintenant, Abraham dit, ah, mais si on a 10! Et alors quoi? Ça dit quoi? Mais alors quoi? Ben, qu'ils prennent leurs affaires et qu'ils partent. Comment ça se passe? Non. S'il y a 10, ils vont justifier que le reste du monde, que le reste de Sodome puisse continuer à vivre. Parce que même si c'est vrai, les autres sont des Réchaïm, Soda Ribouille. Puisqu'il y en a parmi eux qui ont justifié leur existence, donc ça justifiera le reste. Vous savez que ça, c'est une Gemara dans Sanhedrin. Qui a priori, cette Gemara fait très peur. La Gemara dans Sanhedrin, elle nous dit quand Machiar va venir. Ah, d'accord. Mais Zratachem, mais Rabbi Aminou. Quand Machiar va venir, le prophète Yirmiyahou, il a dit un pasouk qui fait trembler. Il a dit, Vetzalti mikem, au nom d'Hachem, ouais. Hachem dit, Vetzalti mikem, echad meir, ou shnaim, mimishpacha. Quand viendra le Machiar, je sauverai parmi vous, echad meir, un parmi une ville entière. C'est-à-dire, il n'y aura qu'un seul survivant parmi toute la ville. Vetzalti bemishpacha. D'accord? Deux par famille. Alors, vous allez me dire, ouais, bah, alors, s'il y en a un par ville, on va pas rentrer là-dedans, d'accord? C'est comment t'as tes raisons par là-bas. Mais, un par ville, et deux par famille. Mais ça fait très peur. Je sais pas, on a tous de Machiar, mais c'est angoissant, un petit peu. Donc, Resh Lakish, là-dessus, sur place, il dit, oui, faut comprendre le pasouk dans le sens simple. Effectivement, ce sera une hécatombe. D'accord? L'arrivée du Machiar, il y aura seulement ceux qui sont méritants de voir le Machiar qui pourront le vivre. Un par ville et deux par famille. C'est tout, pas plus que ça. Rabbi Yochanan dit non. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre le pasouk. Rabbi Yochanan dit à Kadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire que il sauvera une ville s'il y aura une personne qui sera méritante dans la ville. Et il sauvera une famille s'il y en aura deux qui seront méritantes par famille. Echad meir, veshtaim bemishpacha. C'est-à-dire que eux justifieront le fait que les autres existent. Donc pourquoi je vous ramène toutes ces preuves et pourquoi je vous explique ce principe-là? Parce que c'est un principe qu'on doit savoir utiliser. Quand Kadosh Baruch Hu, pour justifier une chose, il va faire une multitude d'autres choses, c'est parce que nous, on doit savoir utiliser ce principe. Je vous donne un exemple. Vous savez, Akadosh Baruch Hu nous a sorti d'Égypte. Quand il a sorti d'Égypte, vous savez que les sorties d'Égypte, c'est la base de la Emouna. C'est-à-dire, c'est la base. C'est-à-dire, c'est là-dessus qu'on construit tout. C'est là-dessus qu'on construit nos enfants. Qu'Hachem, c'est lui le patron du monde. Comment on sait que c'est lui le patron du monde? Parce que c'est lui qui a géré le monde comme il le voulait, qui en a fait une pâte à modeler. En Égypte, Akadosh Baruch Hu, il avait montré que c'est lui le patron sur le ciel, sur la terre, sur les mers, sur les animaux, sur les bêtes féroces, sur les lumières, sur le... C'est lui le maître du monde. Il l'a prouvé lors de la sortie d'Égypte. Les commentateurs, ils posent une question très simple. Ils disent, mais je comprends pas, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu, pour nous faire sortir d'Égypte, nous faire un arrêt cardiaque chez les Égyptiens. D'accord? Tous, ils se sentent pas bien. Je sais pas, moi, un coronavirus chez les Égyptiens, ils sont tous au lit, crevés, ils peuvent plus bouger. Ouais. Et nous, on sort détente. Ouais, on sort sans aucun problème, parce que de toute façon, à la fin, c'est ce qui va se passer. Donc, quitte à sortir sans aucun problème, autant sortir. Voilà, les Égyptiens, on leur envoie un truc très simple. Et puis, nous, on sort tranquille. Non, Hachem a voulu faire 10 plaies. Pourquoi? Parce qu'Hachem sait que chacun d'entre nous, on trouvera ce qui nous renforcera dans la Emouna, dans la sortie d'Égypte. Il y en a ce qui vont les renforcer dans la sortie d'Égypte, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement le fait que la mer s'est ouverte. Et que tu vois, même quand t'es bloqué, que tu vois plus, t'as plus d'issue dans ta vie. Et que t'as l'impression que tout le monde te veut du mal. Et que tu dis, j'ai plus d'espoir. Là, Hachem, il te montre, mais si, regarde. Parce qu'il y a déjà une situation dans l'histoire où il y avait plus d'issue. Il y avait les Égyptiens derrière, les bêtes féroces à gauche et à droite. Et les Israéliens savaient pas quoi faire. Et qu'est-ce que j'ai ouvert la mer. Donc t'inquiète pas, je t'ouvrirai ta mer, toi aussi. La mer, elle sera ouverte pour toi. Je te ramènerai une Yeshua. D'accord? C'est... comme ça. D'accord. Il y en a qui vont tirer leur émouna de ça. Il y en a qui vont tirer leur émouna que si Akadosh Baruch Hu, lui-même, il a su, dans chaque maison, punir ceux qui étaient impies et sauver ceux qui étaient tzadikim. Parce qu'il y avait des Égyptiens qui cachaient des Juifs. Qui voulaient exactement, pour ne pas mourir, mettre des Juifs dans leur maison pour pas mourir, pour être sauvés. Mais tu vois que malgré tout, Hachem, il faisait la distinction. Donc, tu vas te renforcer dans la maladie. Les gens qui vont se renforcer dans la maladie là-dedans. Ah, c'est vrai que lui, il l'a eu. Mais moi, pourquoi je vais l'avoir? Hachem, il fait très bien la distinction. Il peut très bien faire la distinction. Donc, chacun, il va se renforcer dans un domaine. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a multiplié les miracles. C'est pour ça que maintenant, d'ailleurs, le soir de Pessah, on dit combien il y a eu de miracles sur la mer. Et il y en a qui disent qu'il y en a eu 10 sur la mer et 10 en Égypte. Il y en a qui disent qu'il y a eu tatata, jusqu'à 250, tatata. Pourquoi les tzadikim, ils cherchent? Pourquoi là, il y a une marloquette parmi les Tanaïm, Rabbi Akiva, etc. pour compter le nombre de miracles qu'il y a eu en Égypte? Parce que plus il y en a, plus tu vas pouvoir te renforcer dans un domaine. Et chaque domaine, que chaque analyse de miracle, eh ben, ça va te permettre de te renforcer dans tel ou tel domaine. Soda ribouille, Hachem va multiplier le nombre de miracles pour que ça te parle à toi, ça parle à Moshe, et ça renforce ça. Et ça, nous, on doit l'utiliser sans arrêt dans notre émouna. Se renforcer dans tel ou tel domaine par telle ou telle chose qu'on a pu voir. C'est Hachem, il sait nous parler. Vous savez, je donne un exemple aussi. La Mishnah dans Makot, elle nous dit, Rabbi Hanan ben Akasha, Ratsa Akadosh Baruch Hu, les Akot et Israël, et Firah Ribalaim, Torah Mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il a voulu rendre méritant le Ham Israël. Donc, comment il a fait? Il a multiplié le nombre de mitzvot. Pourquoi nous dit le Rambam, Hachem a multiplié le nombre de mitzvot comme ça? Pourquoi il y en a autant du matin jusqu'au soir? On s'arrête jamais. Il dit le Rambam, parce que le but de la multiplication des mitzvot, c'est de créer un contact à chaque fois nouveau avec Hachem, pour qu'on puisse dans notre vie une fois arriver à réaliser une mitzvah entièrement l'Eshem Shamaim. Entièrement l'Eshem Shamaim. Pour Akadosh Baruch Hu, avec la pensée qui correspond avec l'acte dans la plus grande Shlemut. D'accord? La plus grande... Parfait. Alors pourquoi on a autant de mitzvot? Pour ça. Parce que il y en a pour qui ça va les rapprocher d'Hachem, il y en a pour qui ça va les rapprocher d'Hachem, il y en a qui... chacun a sa mitzvah, chacun a la chose qui le renforce. Et c'est pour ça que Avraham Avinu se servait de ça comme cheval de bataille. Vous savez, Avraham Avinu, il rentrait des gens chez lui. Et les gens, ils ressortaient, ils rentraient, ils embrassaient leurs idoles, ils sortaient, ils les jetaient pas à la poubelle. Comment ils faisaient? J'ai pas compris comment il a fait un truc pareil en quelques heures. Avraham Avinu, comment il leur retournait le cerveau? Parce qu'Avraham Avinu, il leur faisait comprendre une chose très simple, c'est qu'il leur servait à manger aux gens. Il leur servait à manger. Et les gens disent, oh, monsieur le rabbin, merci beaucoup. Oh là là, quel repas, c'était incroyable. En plein désert, on a tellement faim, tellement soif. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Et vous voyez, il leur ramenait des steaks, mais comme ça, quoi, des cuisses de taureau, il leur ramenait à Avraham Avinu. Les gens, mais ils avaient jamais mangé ça, c'est une folie. Et là, Avraham Avinu leur dit, mais pourquoi vous me dites merci? Mais pourquoi vous me dites merci? Ne me dites pas merci. Au contraire. C'est pas à moi qu'il faut dire merci. Vous me dites merci sur une vache, mais c'est pas moi qui l'ai créée. Ne serait-ce que la vache, regardez, t'as le paleron, il a pas le même goût que ça, que la côtelette, que le truc, le machin. Chaque morceau de la vache, il a un goût différent, mais c'est pas moi qui l'ai créé, la vache. Si c'est bon, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait. C'est pas pour moi. Et si tu peux pas ou Hachem le manger, c'est parce qu'Hachem, il t'a donné la mâchoire pour pouvoir le consommer. C'est parce qu'Hachem, il t'a donné la possibilité de pouvoir le digérer. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, là-dedans? Tu me dis merci pour une vache. Mais regarde le monde qu'Hachem t'a créé. Regarde le monde qu'Hachem t'a créé. Pourquoi Hachem il a créé 1000 sortes de perroquets? Pourquoi, je sais pas, des milliers de sortes de poissons? Des milliers de sortes d'arbres? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Pour que tu kiffes. Pour toi. Pour que tu vois ça, tu dis, waouh, c'est beau. Alors pourquoi Hachem il a été bribou, il a multiplié comme ça la création? Pourquoi il a fait tant de choses magnifiques dans la création? Tu sais pourquoi? Parce qu'Hachem il sait que ça va te renforcer toi. Et que la beauté de la mer, ça va renforcer lui. Et que la beauté des perroquets, ça va renforcer un tel. Et que le truc, c'est juste pour ça. Hachem il a renforcé, il a créé tellement de shefa, tellement d'abondance juste pour ça. Pour que toi tu te renforces dans ce domaine et toi tu trouves une source d'émouna dans ce domaine. Et que tu vois que si Hachem il a nourri le perroquet en fin fond de la forêt amazonienne, alors tu crois franchement qu'il a un problème de te ramener le salaire à la fin du mois? Non mais t'es sérieux? Tu crois franchement qu'Hachem, il a un problème s'il est parti nourrir les perroquets dans la forêt amazonienne? Tu crois qu'Hachem il a un problème de te faire un chèque? Mais comment tu vas te renforcer avec ce type de réflexion? Le shefa qu'Akadosh Baruch Hu te donne, c'est pour que toi-même tu puisses te renforcer. Rav Gedalia Nadel, qui était Anak Sheba Anakim, qui était un géant. C'est pour vous donner une notion, le stapler, le père de Rav Chaim Kanievski, quand il avait des réponses à des questions auxquelles il n'avait pas la réponse, il envoyait les gens chez Rav Gedalia Nadel. D'accord? Rav Gedalia Nadel. C'est un génie. Pas juste un génie. Pour donner une notion, il a appris l'anglais aux toilettes. D'accord? Rav Gedalia Nadel. Parce qu'il pouvait pas penser Torah. On n'a pas le droit de penser Torah aux toilettes. Donc, chez les tzadikim, c'est très dur de ne pas penser Torah. Sans arrêt. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il a appris l'anglais aux toilettes pour lire la théorie d'Einstein dans les mots. Parce qu'il voulait comprendre le raisonnement. Parce que pour lui, c'est une manière de voir la beauté de la création. D'accord? Ça, c'est Rav Gedalia Nadel. Il habitait Bnei Brak. D'accord? Et lui, il a une opération aux États-Unis. Et quand il a eu cette opération, là, aux États-Unis, il a voulu rentrer par le Brésil. Pourquoi? Parce qu'il a dit, pour moi, tant que je n'aurais pas vu la forêt amazonienne, j'aurais pas vu le pelé de la bria, la beauté de la création. Il voulait voir ça. Le Chazon Ish, il disait, faut pas que je regarde une rose trop longtemps, parce que si je la regarde trop longtemps, je m'évanouis. Et le Rav Shach, une fois, il y a une dame qui est venue le voir, elle était chez elle, elle pouvait pas sortir, elle était pas bien. Et le Rav Shach, il dit, mais vous trouvez à vous occuper? Il dit, oui, j'ai des petites fleurs, j'aime m'occuper de mes fleurs, un petit potager. Alors le Rav Shach, il lui dit, sachez qu'à chaque fois que vous observez vos fleurs, vous faites une mitzvah d'oraïta. Anuchi Hashem Elokecha. Parce que c'est Hashem qui l'a créé, ça. Donc on voit que chacun se renforce dans un domaine de la beauté, de l'infini beauté de la création. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait ça. Et Rabotai, n'oubliez pas que c'est pour ça qu'Hachem nous a créés. Parce que pour quelle raison Akadosh Baruch Hu a multiplié la beauté de sa création? Parce que la beauté de la création se justifie à travers le simple fait que nous maintenant, on montre qu'elle a un sens. On montre qu'elle a un sens. Elle nous parle, elle nous montre qui est Hachem. C'est pour ça que Hateva, la nature, ça a la même valeur numérique, 86, que Elohim. Pourquoi? Parce que quand tu observes la nature, tu vois Hachem. Alors si on voit que Hachem a fait exister toute cette création-là, toutes ces récoltes-là, et qu'elle se justifie pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'elles sont signes de proximité avec Hachem, alors nous, à plus forte raison. C'est pour ça que notre mission sur Terre, c'est de faire du Kiddush Hachem. La mission pour laquelle nous sommes venus sur terre, c'est sanctifier le nom d'Hachem. Kiddush Hachem. Vous savez, la Gemara, enfin, n'est pas le même, c'est le Midrash. Le Midrash nous ramène que Rabbi Shimon ben Shetach, qui était le seul tzaddik qui est resté de sa génération parce que le roi, qui était un rachat de l'époque, avait tué tous les autres tzaddikim. Rabbi Shimon ben Shetach travaillait un travail qui était très très dur dans le lin, c'était puisant, les élèves de Rabbi Shimon ben Shetach, bon bref, il disait mais c'est pas possible que notre rave, il n'ait pas le temps de nous enseigner la Torah, comment on va faire, il faut seulement qu'on trouve une autre solution, qu'on lui trouve un autre travail. Donc ils ont décidé de se cotiser pour acheter un âne pour qu'il ait plus besoin de travailler dans le lin, qui est un travail très compliqué, mais qu'il puisse travailler à transporter un âne et faire de ville en ville des taxis quoi. Donc ils achètent un âne, donc un âne de cinquième main, d'accord. Tellement il était très sale l'âne. Et au moment où ils passent un coup de karcher sur l'âne pour le nettoyer, pour le donner à leur maître, Rabbi Shimon, ils se rendent compte qu'en fait il a un collier qui était dans la boue comme ça. Tellement il était sale l'âne, le propriétaire l'avait même pas vu ce collier. Il avait un collier avec dessus une pierre précieuse. Et là ils disent waouh. Ils courent chez leur Avram, vous a acheté un âne parce qu'on voulait vous faire changer de travail. Regardez comment Hachem nous aime. Le propriétaire, il s'en est même pas rendu compte. L'âne, il avait un pendentif avec une pierre précieuse et vous allez pouvoir ouvrir une yeshiva. Et bah, oh, Hachem, c'est fini avec tout ça. Vous avez besoin de travailler. Hachem, Shatar leur dire, non, vous avez pas compris. Vous prenez ce collier-là, ce pendentif, et vous allez le rendre au propriétaire. Mais il s'est même pas rendu compte. Hachem, Shatar leur dit une phrase qu'on doit jamais oublier. Il dit, vous croyez que Rabbi Shimon ben Shetach cherche à s'enrichir? Rabbi Shimon ben Shetach cherche à sanctifier le nom de Dieu. Les élèves, ils disent, ah, ok. Ils vont rendre le pendentif au propriétaire, qui est un arabe. Ils vont rendre le pendentif à l'arabe, et à ce moment-là, l'arabe dit, Baruch Eloke Rabbi Shimon ben Shetach. Béni soit le Dieu de Rabbi Shimon ben Shetach. Voilà, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Shimon ben Shetach? Ben, il va continuer à travailler, et à truc, et à machin. Mais je comprends pas. Rabbi Shimon, t'aurais pu ouvrir une yeshiva avec ça. Le propriétaire, il avait même pas vu, il avait même pas calculé. T'aurais pu... Pourquoi? Le but? Une chose, sanctifier le nom d'Hachem. C'est pour ça que je suis venu. Ça valait la peine que je sois né, que j'ai existé sur cette planète juste pour que... Ben, il y a un arabe qui va dire Baruch Eloke Rabbi Shimon ben Shetach. Voilà, ça va justifier ma venue dans ce monde. Ça justifie ma venue dans ce monde. Lo Yoman, Avraham Avinu, il va réfléchir. C'est la même chose. Avraham Avinu, lui, il est en train de faire tout le monde Roser Betchouva. Tout le monde est en train de se renforcer, se rapprocher d'Hachem. Tout le monde, il fait Tchouva, tout le monde. Nimrod, il pète un câble. Il dit, amenez-moi Avraham. Donc, il ramène Avraham Avinu. Il dit, tu te prosternes ou sinon je te jette dans la fournaise. Avraham, il dit, jetez-moi. Attends. Moi, si j'avais été le bras droit d'Avraham, j'aurais dit, attends, Avraham, tu vas pas faire ça? Mais tu me charries quoi? Mais si toi, tu pars, et c'est tout, c'est fini, et il y a plus personne qui fera ton travail à la place. Mais tu vas pas te jeter. Dis, fais semblant de te prosterner, être avec ni venir au lieu. Et si tu rentres, et tu continues à faire tout le monde, faire tout voir. Avraham Avinu, il dit, j'ai pas l'intérêt. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis là pour sanctifier le nom d'Hachem. Si maintenant, sanctifier le nom d'Hachem, c'est de mourir pour le nom d'Hachem, eh ben, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Et c'est ce qu'il va faire. Il va être jeté dans la fournaise. Et Hachem va lui faire le miracle, etc. Mais lui, il y allait en disant, je vais mourir. Alors, nous, c'est pas ce qui est attendu de nous, parce que, on est plus au niveau maintenant de mourir, Bekidouch Hachem. C'est pas qu'on n'est pas au niveau, on n'en sait rien, mais, il y a une chose qui est sûre. C'est que la Gemara dans Rosh Hashanah nous dit une chose. Qu'est-ce que le Kidouch Hachem? La Gemara répond. Le Kidouch Hachem, c'est quand on voit un enfant qui a été envoyé à la yeshiva. Ça me dit la Gemara. Et que quand il revient chez lui, il revient dans sa communauté, et ben les gens disent, waouh, ah, béni soit le père de cet enfant. Heureux est le rave de cet enfant. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, par son comportement, il est signe de Kiddush Hashem. Quand tu fais du Kiddush Hashem, tu as justifié la raison pour laquelle maintenant tu es venu dans ce monde. Et ça, c'est la clé de Rosh Hashanah. C'est la clé de Rosh Hashanah. Et c'est ça que vient nous dire Rabbi Akiva. Ramenez-le au maire. La Torah nous dit ramenez-le au maire à Pessah. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu ramènes le homer à Pessah, ce homer-là, il a justifié toutes les récoltes. Ramenez les pains à Shavuot. Tu sais pourquoi? Parce que ces pains-là, ils ont justifié toutes les saisons des fruits, toute la récolte des fruits. Ramenez de l'eau à Soukot, parce que cette eau-là, quand elle s'est rapprochée d'Hachem, elle a justifié le sens de toutes les eaux dans le monde. Vous, venez à Rosh Hashanah. Et vous savez ce que j'attends de vous? Une chose, sonnez le chauffard. Tu dis, bah alors, quel rapport? Quel rapport sonner le chauffard? Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas sonner le chauffard, tu vas faire un tel kiddush Hashem que tu vas justifier la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde. Vous voulez la preuve? Il y avait un géant dans le Ham Israël qui s'appelait Rav Yitzhak Leib Lazer. Rav Yitzhak Leib Lazer, c'était l'élève du Rav Yisrael Salanter. C'était un génie. D'accord? Rav Yitzhak Leib Lazer, une fois, donc, le minhag qu'il y avait dans sa communauté, c'est qu'à la fin de la tefila de Rosh Hashanah, le soir, tout le monde passait devant lui pour demander une bracha. Tout le monde passait devant Rav Yitzhak Leib. Et là, il y a un monsieur, un bon juif, d'accord? Pas Talmid Chacham, pas un grand tzadik, mais un bon juif. Il vient, et puis il demande au Rav, je peux avoir une bracha pour la nouvelle année. Le Rav dit, Bezrat Hashem. Que tu grandisses en Torah, en Yirat Shamaim, que tu puisses encore mieux faire les mitzvot, et que tu puisses, Bezrat Hashem, finir le chasse. Alors, il regarde le Rav et dit, ok, amen, Rav, amen. Alors, le Rav, il dit, ça va? Il dit, ouais, ça va. Ça va. C'est la vérité, Rav. Vous avez pas une bracha pour l'argent, ou je sais pas, c'est truc comme ça, quoi, ça. Il dit, mais pourquoi? Elle te va pas? Non, mais c'est ça, vous dites que j'avais devenir, que je Bezrat Hashem, que j'étudie, que je... Mais Rav, voilà, regardez, j'ai 50 balais, changer ma vie maintenant, je sais pas si je la changerai, est-ce que je deviendrai un Talmid Chacham, je pense encore moins. Donc voilà, j'entends votre bracha, Rav. Le Rav le regarde, il dit, tu sais, tu as moins confiance en toi que le Satan a confiance en toi. Bah! Oh! Lui, j'entends ça, il dit, mais Kvod Rav, pourquoi vous me dites ça? Je vais te dire pourquoi. Parce que la Gemara dans Rosh Hashanah nous dit, pourquoi on sonne deux fois le shofar? On sonne le shofar une première fois avant le moussaf et une deuxième fois pendant le moussaf. Pourquoi? Nous dit la Gemara pour être mébalbel le Satan. Bah, le Satan, il sait plus où il en est. Il a entendu deux fois le shofar, il est perdu. Alors nous dit la Gemara, nous dit Tosfot sur place, mais qu'est-ce qu'il est mébalbel? J'ai pas compris. Pourquoi il est mébalbel? Ce Tosfot nous dit, oui, c'est pourquoi? Parce que là, il pense que c'est l'arrivée du Mashiach. Il entend le shofar, il dit, oh, Mashiach, il arrive! Et Bila la mavette la metzar, c'est-à-dire que, à l'arrivée du Mashiach, la Gemara dans Souka nous dit qu'Hachem va lui faire la shrita, donc il va mourir, donc il est en panique, il est perdu. Demande Rav Yitzhak Leib Lazer, non mais j'ai pas compris, le Satan c'est tellement un imbécile. Non, c'est genre, il est pas au courant de l'emploi du temps, genre. Du Mashiach, quoi. Toute l'année! Il sait très bien quand est-ce que c'est Shabbat pour te faire transgresser Shabbat. Il sait très bien quand est-ce que c'est dimanche pour te faire des sorties un petit peu pumped up. Il sait très bien quand c'est maintenant, c'est lundi, t'es au bureau, et que maintenant tu vas revoir la secrétaire. Il sait tout! Il sait tout, le Satan, il sait exactement. Il nous dit le chovat alevavot, atayoshenlo, vor lecha. Toi, tu dors, mais lui, il est réveillé pour toi! Lui, il est réveillé pour toi! Alors, tu crois franchement que, mais j'aime ça. Tu crois, Hachem, il fait ce qu'il veut. Le Satan, il sait ce qu'il veut. Il sait très bien ce qu'il fait, pardon. Le Satan, il sait très bien ce qu'il fait. Donc, il sait très bien que c'est Rosh Hashanah. Donc, c'est quoi cet embrouille, là? Pourquoi il a mis une balbel? Il dit, Rav Yitzhak Leib Lazer, tu sais pourquoi? La réponse, elle est très simple. Parce que le Satan, quand il entend que les Juifs sonnent le chauffard, ils savent que le Ham Israël fait tchouva. Ils savent que le Ham Israël accepte sur eux le joug d'Hachem. Que Hachem, c'est lui le Melech. Et quand le Ham Israël décide de faire tchouva, alors là, le Mashiach peut venir. Parce que le Satan, il est vraiment en danger. Tu te rends compte un peu ce que le Satan, combien le Satan a peur de ta réaction demain quand tu vas entendre le shofar? Et toi, tu crois que tu vas pas changer cette année? Regarde combien le Satan a peur de ta réaction. Et toi, tu crois que tu vas pas changer? Rabotai, si pendant le shofar, on a un éveil, Akadosh Baruch Hu, c'est toi le Melech. C'est toi le patron. T'as bloqué le monde entier avec un virus. C'est toi le maître du monde. Si il y a une chose qui va à l'encontre de ta volonté, c'est toi qui auras le dernier mot. Si on prend conscience de ça et qu'on se renforce là-dessus, on a justifié notre année. Et si on ramène un homer, on a justifié les récoltes. Et si en ramenant les deux pains, on a justifié tous les fruits. Et si en ramenant de l'eau à Sukkot, on a justifié toutes les pluies pour l'année. Alors si toi tu viens devant Hachem avec un seul éveil, et c'est ça la clé de Rosh Hashanah, de Rabbi Akiva, tu ramènes un seul éveil au moment du Tkiyat Shofar, que Hachem c'est lui le Meler, alors t'auras justifié ton année. T'auras justifié qu'Hachem te donne encore une année de vie, Bezrat Hashem. Ça, c'est la clé de Rosh Hashanah. Vous savez, une très belle histoire, probablement une des plus belles histoires que j'ai entendues. Le Marin Diskin. Marin Diskin, c'était un géant. En Torah, à chaque fois je dis géant, génie, je suis obligé parce que la vérité. Le Marin Diskin, pour vous donner une notion, il voyait un arbre, il disait, ah, il y a 25 693 feuilles. D'accord? Une fois, il y a un élève qui l'a enlevé une feuille, il a dit, ah, il a dit, ah, combien là? Il y a 25 692. C'était Marin Diskin, un roi Hakodesh qui était... Il avait une voisine qui était une femme almana, veuve, et qui était très handicapée, elle était tout simplement paralysée. Et cette femme-là, la communauté juive se cotisait pour lui payer des infirmières qui venaient lui changer, qui venaient la changer, qui venaient s'occuper d'elle, qui venaient la tourner dans son lit, etc. Et veille de Rosh Hashanah, le Marin Diskin rentre chez cette dame-là pour lui souhaiter une bonne année. Et la femme regarde le rave, elle lui dit, Kvot Arav, s'il vous plaît, priez pour moi, Rosh Hashanah. Alors le mari, il dit, oui, vous souhaitez que je demande quoi? Alors la femme dit, priez pour que je vive longtemps. Bah, le mari dit ce qu'il entend ça, il dit, waouh. Il dit, d'accord, mais vous voudriez pas plutôt que je prie pour que vous guérissiez? Alors à ce moment-là, la femme lui dit, non, Rav, je vais vous dire pourquoi. Parce que si Hachem m'a ramené cette maladie, et si Hachem m'a pris mon mari, c'est qu'il a des bonnes raisons. Donc j'ai pas envie de douter sur les raisons d'Hachem. Mais par contre, j'aimerais juste qu'il me fasse vivre longtemps. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, la journée, je peux pas, il y a une bêta knesset, j'entends des tfilodes, je peux pas étudier, je peux pas prier parce que je suis sale. Mon corps, il est sale. Et donc, il y a une fois par jour, ou le matin, il y a les infirmières qui passent et qui me changent. Et j'entends la tfila de Shacharit de la Beta Knesset d'à côté. Et je peux répondre Kaddish. Je peux répondre Amen au Kaddish, Amen Yishemir Abba au Kaddish. Et quand je peux faire ça tous les matins, de pouvoir sanctifier le nom d'Hachem, alors ça me suffit. Voilà, Baruch Hashem. Donc j'aimerais vivre longtemps pour continuer à faire ça. Ça, c'était une juive de Yerushalayim à l'époque du Marin Diskin. Alors, à plus forte raison, quand nous, on arrive le jour de Rosh Hashanah, on dit à Kadosh Baruch Hu, je veux justifier mon existence. Je veux me rapprocher de toi. Je veux rapprocher mes enfants, ma femme, mon couple. Je veux qu'on se rapproche de toi, Kadosh Baruch Hu, parce que t'es tellement bon. Tu es tellement merveilleux. Parce qu'à partir du moment où tu justifies ta vie, à Kadosh Baruch Hu continuera à te la donner. On a un exemple dans la Torah qui s'appelle Paro. Paro, c'est un racha merusha. Tout le monde le sait, d'accord? Maintenant, Paro, lui, il devait mourir lors de la dixième plaie en Égypte. Lors de la plaie des premiers-nés, il devait mourir, Paro. C'est pourquoi? Parce que lui-même, il était premier-né. Alors, pourquoi il n'est pas mort? Pourquoi Hachem n'a pas tué Paro? La Torah nous dévoile qu'en fait, Hachem n'a pas voulu le tuer parce que de lui allait sortir un kiddush Hachem. De lui allait sortir l'ouverture de la mer. Parce que c'est, entre guillemets, grâce à Paro, qui va mettre la pression au Ham Israël, que le Ham Israël va crier vers Hachem, qu'ils vont foncer dans la mer, et que la mer va s'ouvrir. Donc Hachem, il a encore besoin de lui pour faire un kiddush Hachem. Donc même si c'est un racha merusha, Akadosh Baruch Hu va le laisser en vie. Pourquoi? Parce qu'il justifie sa vie, il y aura un kiddush Hachem qui va sortir de lui. Même si maintenant il recevra aucun salaire de ça. Mais malgré tout, il y a un kiddush Hachem qui va sortir de lui, donc il justifie sa vie. Incroyable. Et à l'inverse aussi, lors de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu a mis la montagne sur le Har Sinaï sur la tête du Ham Israël. Il a dit, si vous recevez la Torah Moutav, sinon Shamtiek Vouratrem. Ça veut dire quoi? Là-bas sera votre tombeau, le tombeau du monde. Le monde retourne au néant. La Gemara dans Shabbat, elle nous dit, Resh Lakish, pourquoi c'est marqué dans le sixième jour de la création, Vayere Vayboker Yom Hashishi, avec un He. Normalement, la Torah aurait dû dire Vayere Vayboker, il fut soir et fut matin. Yom Shishi, le sixième jour. Non, pourquoi? Ha Shishi, le sixième jour. Pourquoi? La Torah nous dit, parce que tout simplement, la Gemara nous dit, qu'Akadosh Baruch Hu attendait le 6 Sivan, pour savoir si il continue à maintenir le monde ou pas. Si l'homme Israël accepte la Torah, tant mieux. Sinon, le monde retourne au néant. Il y a personne qui veut de la Torah sur cette planète, il retourne au néant. Demande-le Saba Mikael, elle a une question très simple. Il dit, pourquoi? Pourquoi tout détruire? Mais les girafes, elles y sont pour rien, elles! Et les rhinos, ils en sont pour rien. Et les lapinous, ils en sont pour rien. Pourquoi détruire le monde entier? Mais ils ont rien fait. Nous dit le Sabbat Mikilem cette règle-là. Parce que tant qu'il n'y a personne dans le monde pour justifier que ce monde-là est là pour se rapprocher d'Hachem, et que personne ne veut recevoir la Torah d'Hachem, et personne ne recherche la proximité d'Hachem à travers cette beauté de ce monde-là, le monde n'a plus de raison d'existence. Le monde n'a plus de sens. Et c'est ça qu'on dit dans la tefila de Rosh Hashanah. On demande à Hachem, « Veyeda kol pa'ul ki ata pa'alto ». Hachem, on demande que tous ceux qui agissent dans le monde, qu'ils comprennent que c'est toi qui les fais agir. Veyavin koyetsur ki ata yatsarto. Que comprennent toutes créatures que c'est toi qui les as créées. Ça, c'est ce qui est attendu de nous. Et ça, c'est ce qui est attendu du monde. Qu'on soit source de Kiddush Hashem. Si tu montres qu'il y a un Dieu sur terre, si tu fais en sorte que tout le monde comprenne qu'il y a un Dieu sur terre, il nous a donné un cadeau, il nous a donné la vie, et le monde, et la Torah, et elle est tellement belle. Tu fais ça, tu as justifié ton existence. Akadosh Baruch Hu te donnera la vie. Parce que si un homer, il justifie toutes les récoltes, et si de l'eau sur l'autel, elle justifie toutes les pluies, alors toi, ta vie, elle justifiera que Bezrat Hashem, non seulement il va te donner une année, mais il te donnera toute la bracha qu'il faudra avec. Il te donnera toute la bracha qu'il faudra avec. Vous savez, il y a une Gemara extraordinaire, tellement belle. La Gemara dans Shabbat, elle dit, tout celui qui profite de ce monde sans bracha, c'est comme s'il vole Hachem. D'accord? Pourquoi? D'où est la Gemara? C'est ça. Parce qu'il y a deux psukim, il y a deux versets qui se contredisent. D'un côté, c'est marqué, l'Hachem arrête son moulin. Ah. Le monde appartient entièrement à Hachem. Mais d'un autre côté, c'est marqué, Venatan arrête l'ivne Adam. Il a donné la terre aux hommes. Donc, alors, j'ai pas compris. L'Hachem, la terre, elle appartient aux hommes, ou à l'homme, ou elle appartient à Hachem. À qui ça appartient? C'est à qui? La Gemara répond, ça, c'est avant la bracha, et ça, c'est après la bracha. Avant la bracha, la planète appartient à Hachem. T'as pas le droit d'en faire ce que tu veux. T'as pas le droit d'en profiter si tu n'as pas demandé l'autorisation d'Hachem. Comment tu demandes l'autorisation? Une bracha. Tu fais une bracha, tu récites une bracha, alors maintenant, là, ça t'appartient. Nous dit le Rabbi Tzadok à Cohen Miloublin. C'est une logique. Quelle est la logique? Écoutez bien comment c'est beau, c'est magnifique. La logique, elle est comme ça. C'est que lorsque tu prends quelque chose, tu pourrais dire, attends, Hachem, ce fruit, c'est pas à moi, c'est à toi. C'est à toi, Hachem. Alors Hachem, il dit, ah, tu dis que c'est à moi, alors c'est à toi. C'est ça le but de la bracha. Hachem, c'est pas à moi, c'est à toi. Baruchata Hachem, lo kenu melech olam boré pri haetz. Hachem te dit, t'as dit que c'était à moi? Ah non, c'est à toi. Et il te le donne. Mais quand toi tu commences à dire dans ta vie, non, ça c'est à moi. Alors Hachem dit, ça tu dis que c'est à toi? Non, c'est à moi. Tu veux recevoir la bracha? C'est quoi la bracha? La bracha, c'est qu'Akadosh Baruch Hu va te donner dans ta vie, écoutez bien, tous les moyens nécessaires pour réaliser la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde. Ça c'est la bracha. Je répète. La bracha, c'est qu'Hachem va te donner tous les moyens matériels possibles et inimaginables qui te sont nécessaires pour réaliser la raison pour laquelle maintenant tu es venu dans ce monde. Parce que si toi tu justifies ta vie, Hachem te donnera tout ce qu'il te faudra pour t'aider. Et un exemple extraordinaire qu'on a eu dans notre histoire, c'était Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, Hachem lui apparaît en rêve. Il lui dit, tu vas être roi d'Israël. Demande-moi ce que tu veux. Tu veux la richesse? Je te donne. Tu veux le pouvoir? Je te donne. Tu veux la force? Je te donne. Qu'est-ce qu'il va dire chez ton mamélaire? Hachem, je veux une seule chose. L'intelligence. L'intelligence de savoir discerner le bien du mal. Ça, c'est ce que va demander Shlomo HaMelech. Hachem va lui dire, ah, c'est ça ta demande? Alors très bien. Tu auras tout le reste en bakchiche. Tout le reste, t'auras la puissance, la richesse, t'auras tout le reste avec. Pourquoi? Parce qu'à travers ta demande, tu as montré que tu justifies ton rôle de roi. Savoir discerner le bien du mal. Tu as justifié ton rôle de roi, tu auras tout ce qu'il te faudra avec. Et bien, sachez que c'est exactement la même chose à Rosh Hashanah. On arrive devant Hachem à Rosh Hashanah, on dit, Hachem, je t'en supplie, donne-moi la bracha. Mais Hachem te dit, Baba, tu justifies la bracha, toi? Qu'est-ce que t'as fait avec ton argent cette année? Qu'est-ce que t'as fait avec ta santé cette année? T'as fumé combien de... Qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai donné un parnassa, qu'est-ce que t'as fait? Où t'as été? Je t'ai donné une voiture, qu'est-ce que t'en as fait? Je t'ai donné des enfants, tu les as amenés à où? Tu les as rendus plus intelligents, plus proches de moi, ou tu les as rendus plus bêtes? Qu'est-ce que t'en as fait? Et ça, c'est ce qu'on demande à Rosh Hashanah. Akadosh Borou, s'il te plaît, je cherche une chose, à justifier ma vie, à me rapprocher de toi, et faire en sorte que le monde entier, Yada Yavin Kolitsur qui a taille et tsarto, que tout le monde comprenne que c'est toi le patron. Hachem te dit, c'est ça ta mission? Alors si c'est ta mission, alors très bien, je te donnerai tous les moyens, et c'est ça la bracha, pour pouvoir le réaliser. Vous savez, je vous donne un exemple très simple, c'est les diplomates. Un diplomate, il est envoyé par un pays pour aller négocier ou échanger avec un autre pays. Vous savez que les diplomates, ils dorment dans les plus beaux hôtels. Ils voyagent en première classe. Ils mangent dans les plus beaux restaurants. Et en plus de ça, ils ont un salaire. Elle est belle, non? Tu dis, oh purée, elle est belle, hein? Tu crois qu'il a dépensé $1 pour ses billets? Non. Tu crois qu'il a dépensé $1 pour son hôtel? Non. Tu crois qu'il a dépensé $1 pour son resto? Non. Comment ça se fait? Réponse, il est diplomate. Puisque lui, il est représentant du pays, c'est le pays qui paye. Eh ben, sachez que si à Rosh Hashanah, tu dis à Kadosh Baruch Hu, je veux être ton diplomate, Hachem. Je veux être ton représentant sur terre, Hachem. Hachem te dit, alors toutes les dépenses, ce sera pour moi. Il n'y a pas de problème. Vas-y, mon fils. Ça, c'est la clé de Rosh Hashanah. Ça, c'est la clé de Rosh Hashanah. Vous savez, une fois, il y a un monsieur, il est en montagne comme ça, truc, il est en train de monter, tout, avec son sac comme ça, qui fait 2 mètres sur son dos, et puis il est là, avec truc, comme ça, il monte pour gravir la montagne. Et il arrive à 3000 mètres d'altitude, il arrive, il voit un chalet qui fait office de restaurant comme ça. Waouh, impressionnant, incroyable, un chalet ici, waouh, je peux pouvoir m'asseoir à une terrasse, boire un coup. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, waouh, je prends une bonne bière. Et puis, il va pour commander la bière, 10 euros. Waouh! 10 euros la bière? Et puis il voit, pizza, 100 euros. 100 euros la pizza? C'est une blague ou quoi? Et donc il appelle, excusez-moi, c'est des euros là? C'est marqué en euros ou c'est marqué en... Il dit, oui, c'est... Il dit, mais c'est hyper cher! Vous rigolez ou quoi? Il dit, regardez monsieur, vous êtes à 3000 mètres d'altitude. Une pizza à 3000 mètres d'altitude, ça vaut 100 euros. Une bière, ça vaut 10 euros. C'est comme ça. Vous êtes content, vous n'êtes pas content. C'est comme ça que ça marche. Bon, il dit, ok, d'accord, bah, si c'est comme ça, ok, mais alors, écoutez, je vais prendre de l'eau, d'accord, avec une part de pizza, ça vous arrange pas, merci beaucoup. Et là, il voit quelqu'un qui s'assoit à côté de lui, et là, il commande, il dit, ah, voilà, je voudrais un gratin, mettez-moi 2 bières avec, les serres, on voit après. Et il se fait un repas de folie. Ah, il commande. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il voit l'autre, donc il fait le repas, lui, il est en train de manger sa part de pizza, et voit l'autre qui finit le repas et tout, pfff, magnifique. Il pose sa serviette, il se lève, il part. Waouh! Mais il voit ça, il dit, hey, serveur! Allô? Il est parti sans payer! Non, mais arrêtez-le! Non, le serveur, il regarde, lui, il n'a pas besoin de payer. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, c'est vrai, lui, il a mangé pour 500 euros. Mais il a besoin de payer parce que lui, c'est le gérant. Donc, il paye pas. C'est le gérant. Bah, sachez que c'est exactement pareil dans la vie. On demande à Hachem la parnassa. On demande à Kadosh Baruch Hu la santé. Hachem, il peut te donner tout ça, sans aucun problème. Il peut te le donner sans aucun problème. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu arrives devant Kadosh Baruch Hu, tu dis à Kadosh Baruch Hu, Ribbono Olamim, c'est pas pour moi. C'est parce que je veux être source de Kiddush Hachem dans ce monde. Je veux réaliser ma mission. Hachem, je t'en supplie. Donne-moi tous les moyens pour le faire. Hachem, il te dit, c'est ça ta mission? Pas de problème. T'es le gérant de ta vie. Alay. C'est sur moi toutes les dépenses. Mais si toi tu commences à dire Hachem, écoute, ne m'oublie pas, d'accord? Mais toi, tu l'as oublié. Alors déjà, pas t'étonner après si tu tapes dans les caisses qui sont à toi, de tes mérites, pour payer des choses, pour eux. Rabotai, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Rabbi Akiva nous a enseigné dans cette Gemara que si le homer est justifié toutes les récoltes, que si les 2 pains justifient tous les fruits, et que si l'eau justifie toutes les pluies, alors Bezrat Hachem, si toi tu arrives avec ta grande âme à Rosh Hashanah, tu dis Hachem, cette âme, elle est pour toi. Hachem te dira, alors il n'y a pas de problème, je te donnerai toute la bracha pour pouvoir la gérer. Qu'Hachem vous bénisse, que vous soyez tous inscrits dans le livre de la joie, du bonheur, de la bracha, de la parnassa, du shefa et d'une magnifique vie. Ruchim Tzion.
Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbanim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, Emouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent l'Halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.
Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site Torah Box, www.torah-box.com, trois enseignements de judaïsme par des rabbanim différents, sur d'autres sujets variés et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'articles. À bientôt.